Première époque, 1944, mourir en Normandie. Chapitre 1, l'assaut. 6 juin 1944, Omaha Beach, la pointe Guillaume. La péniche ouvrit son ventre. Les 188 Rangers plongèrent dans l'eau froide, puis se dispersèrent rapidement. Vu du haut de la pointe Guillaume, ils n'étaient guère plus grands que des fourmis sur une nappe froissée. Difficile à viser. Lucky Marie parvint le premier sur la plage, à peine essoufflé. Il s'allongea dans le sable humide, protégé par un petit bloc de granit et la lourde caisse d'explosifs qu'il posa devant lui. Il entendit des bruits de pas rapides dans son dos et un souffle court. Ralph Finn se jeta lui aussi derrière l'abri de fortune. Vivant. Il regarda un instant la pointe Guillaume, tout en haut dans la brume, puis le mur de béton 50 mètres devant eux. Il sourit à Lucky, un sourire de brave type pris dans la tourmente du monde, et pourtant prêt à se comporter jusqu'au bout en héros anonyme. Une explosion retentit à moins de 10 mètres d'eux. Sans un cri, des nuages de sable mouillé s'élevèrent. Alan Woe surgit du brouillard et s'allongea à côté de Lucky et Ralph. Vivant lui aussi. Son regard s'enfonça dans celui de Lucky. Un regard calme, empreint de sagesse, un supplément d'humanité. À quoi cela lui servait, ici ? Un ! Hurla le lieutenant Dean. Immédiatement, comme des machines bien entraînées, Lucky, Ralph, Alan pointèrent leurs armes en direction de la pointe Guillaume et tirèrent. La mitraille devint soudain assourdissante. Une pluie de balles s'abattit sur le blockhouse juché au sommet du piton rocheux. Tout en visant, Lucky se forçait à penser à Alice. Il s'en sortirait, grâce à elle, comme toujours. Un hurlement déchira le vacarme des détonations. Le malheureux Benjamin Yes n'était pas allé loin. « Deux !» hurla Dean. « Déjà ?» Tout en continuant de tirer à l'aveugle, Lucky se retourna. Dans le flux et reflux de l'eau souillée, il observa un instant les corps des compagnons tombés, les corps des compagnons blessés, les corps inertes aussi de ceux qui n'avaient pas osé aller au bout, courir à découvert, sortir plus que la tête de l'eau. Parmi eux, Oscar Arlington. Il parvenait enfin sur la plage. Trempé, rampant dans la boue grise, il se rapprochait lentement de la caisse d'explosifs. Il tremblait, incapable de saisir son arme, les yeux injectés de sang. Lucky croisa le regard effaré d'Arlington. « Trois !» hurla le lieutenant Dean. Une violente explosion répondit à la mitraille des Rangers. Des débris de terre ocre mouillés les recouvrirent. Oscar Arlington, maculé de terre, d'eau et de larmes, presque méconnaissable, l'avait rejoint derrière les explosifs. Lucky ne lui accorda pas un regard. Il lui fallait oublier, il lui fallait se concentrer sur le visage d'Alice, sa fiancée, sa si belle fiancée. Il allait gagner de toute façon, comme toujours, d'une manière ou d'une autre, il gagnerait, contre tous les Arlington de la Terre. « Quatre !» hurla le lieutenant Dean. Un immense frisson parcourut Lucky. Il sourit. Jamais au poker il n'avait connu une telle excitation, même sur ses mises les plus incroyables. La vie était un formidable jeu, un jeu à 1,44 million de dollars. Il ferma les yeux, puis les rouvrit. Le doux visage d'Alice remplaçait désormais le brouillard de poudre. Il était immortel. Il sentit la main molle d'Oscar Arlington chercher à agripper un pan de son treillis. Trop tard. Ne plus hésiter maintenant. Il allait enfin savoir. Trouver la réponse à cette folie entreprise 3 jours plus tôt. Lucky était-il le plus insensé ou le plus génial de tous les Rangers de l'opération Overlord? 3 jours plus tôt. Chapitre 2. Loterie funèbre. 3 juin 1944, port de Denton, Angleterre. Ils montèrent au ciel d'un jour où ils tombaient des cordes. Cette phrase hantait Oscar. Il avait dû lire ça quelque part, il n'y a pas longtemps. Ou bien il l'avait entendu quelque part, de la bouche d'un con. Ça ne manquait pas de cons capables de dire cela sur cette péniche. De cons se prenant pour des prophètes. De cons devenus mystiques 2 ou 3 jours avant le jugement dernier. Oscar enfonçait sa grosse tête ronde dans le hublot et regardait les cordes tomber. On ne distinguait plus rien dehors, ni l'eau du port, ni le ciel, ni les bâches grises dissimulant les péniches, à peine la lumière clignotante d'un phare ou d'un bar, enfin juste d'une vie quelconque dehors, loin. Sûr qu'il en tomberait des cordes, ce putain de 6 juin, sur cette putain de plage, là-bas en face. Sûr que l'eau serait glacée, que le sable serait lourd et lui collerait aux bottes, si jamais il l'atteignait, ce sable. Sûr qu'il ferait un temps pourri, histoire qu'il ne quitte pas cette terre avec trop de regrets. Sûr qu'il tomberait des cordes. Oscar pensa alors bêtement que, de toute sa vie, il n'était jamais parvenu à monter à une corde, ni à l'école, ni lors des entraînements avec le commando. Il était toujours resté planté à 1 mètre du sol, comme un gros cochon suspendu. Il sourit. Cela prouvait bien qu'il n'avait rien à faire ici, dans cette péniche, parmi ces héros inconscients. Ces héros étaient exactement 188. 187 sans compter Oscar Arlington. 187 jeunes Américains composant le 9e Rangers, tous serrés dans cette péniche, tous supportant sur leurs épaules le poids de l'une des missions les plus délicates du débarquement de Normandie. Se rendre maître de la pointe Guillaume. La pointe Guillaume se présentait comme un piton rocheux dominant la falaise normande, coiffé d'un blockhouse et hérissé de canons. Elle était considérée par les stratèges comme l'un des sites les plus importants de l'opération Overlord. Dans la péniche s'entassaient donc 187 jeunes volontaires américains enthousiastes, pétants de santé, à grimper et redescendre depuis 1 mois les falaises anglaises, facilement maintenant, ayant désormais la main ferme, sans vertige, bruyant le soir au bar, buvant et riant, fiers et confiants, en eux, en leur étoile, dans les étoiles de ce drapeau protecteur qu'ils devaient aller planter en haut de la pointe Guillaume. Pourtant, dans la plus grande salle de la péniche, la salle qu'on utilisait habituellement comme bar, un silence absolu régnait. On avait rangé les cartes, les bières, les dés, tout ce qui servait à tuer le temps sous la bâche. Les 188 Rangers s'y tenaient serrés. Certains, comme Oscar, appuyés contre un hublot, d'autres ayant réussi à s'asseoir sur un coin de table ou de tabouret, quelques-uns par terre, la plupart restaient simplement debout. Ces 188 jeunes Américains, le crâne rasé à faire peur, ordinairement plein d'histoires salaces et de pensées cochonnes, se regardaient muets. Ça puait l'humidité, ça puait la promiscuité suante, ça puait la respiration forte, ça puait comme dans un vestiaire de football. Mais pas un ne disait un mot. Le vestiaire de l'équipe qui aurait perdu, où chacun attendrait la punition, où chacun espérerait qu'elle tomberait sur un autre. Les 188 perdus regardaient au centre de la pièce un petit tabouret tout bête, avec dessus un casque posé. Simplement un casque, fixé par tous comme la statue d'un diable. « Mais qu'est-ce que je fous là ?» pensait Oscar. Oscar suait encore plus qu'un autre. C'était d'une telle évidence, il n'avait rien à faire parmi ces sportifs rasés. Il n'avait rien à faire ici, parmi ces Rangers. Ils étaient tous grands, forts, bronzés, même sous la pluie anglaise. Lui était petit et grassouillé. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais aller foutre sur cette plage? Ils vont me dégommer tout de suite, gros comme je suis. Je ne pourrai même pas me planquer derrière un autre. Même le plus myope des soldats allemands ne pourra pas me rater. Et tout cela par la faute d'une seule personne. Oscar Arlington ferma un instant les yeux. Emilia Arlington, sa propre mère. Parce que, bien sûr, maman voulait que son fils soit un héros. Bien sûr, elle avait insisté pour que son fils fasse partie des Rangers, si possible ceux qui allaient se taper la grimpette de la pointe Guillaume.